Je m'appelle Ekiabadou et j'ai une sœur et j'ai quatre frères, dont Ange qui aurait 29 ans aujourd'hui. Alors mes parents se sont rencontrés en France, ils étaient étudiants. Mon père, lui, est ivoirien. Ma mère, elle est née au Cameroun. Sur mes frères et sœurs, on est trois à avoir visité le Cameroun. Moi, j'y suis allée quand j'étais nouveau-née pour être présentée à ma famille. Et j'y suis retournée pour mes 10 ans et plusieurs fois après. Et mon petit frère, malheureusement, lui, il y a été une fois et ça a été un aller sans retour. Il lui est arrivé quelque chose qui, jusqu'aujourd'hui, reste une interrogation totale. Mon petit frère, Ange Hanouman Ali, il est parti avec ma mère, c'était l'été 2009. Il y a été pour la première fois, il avait 20 ans. Et il était très content d'y aller. Ils ont choisi Douala comme premier point de chute. Et de là-bas, ils sont partis visiter l'un des frères de ma mère qui habite une ville qui s'appelle Konsong, qui est la ville où mon oncle réside avec sa femme qui est de cette ville-là, Konsong. C'est au nord de Douala, 2h30, 3 heures de route, pays Bamileke. Ville, c'est un bien grand mot, c'est un village où il y aurait, selon les chiffres officiels datant d'il y a 3 ans, 3 000 habitants. Et de là-bas, en fait, on ne comprend pas très bien ce qui s'est passé parce que j'ai reçu un coup de fil le 16 septembre 2009, le pire coup de fil de ma vie. C'était un appel du Cameroun et c'était pas le numéro de ma mère. Et là, je tombe sur ma tante qui me dit ma petite, tu te passes ton oncle. Et là, mon oncle me dit ma petite Lizzie, sois forte. Et je commence à hurler, qu'est-ce qui est arrivé à maman? Il me dit non, ce n'est pas ta mère. Ange n'est plus. Et je me rappellerai toujours, en fait, quand il me parlait, je lui parlais et je courais. Et je criais, en fait. Je disais, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et là, en fait, mon oncle me dit, il est tombé dans l'eau, tombé dans le fleuve Cam. Et là, il me dit, oui, un accident s'est passé, c'est très grave, il est tombé. Donc, il fallait vraiment que je parte. Et donc, je suis allée au Cameroun pour essayer de comprendre ce qui s'était passé, quoi. J'ai été à trois morgues de Douala où des corps avaient été retrouvés, puisque comme le fleuve arrive jusqu'à Douala, des corps ont été repêchés. Donc à chaque fois que le personnel soignant ouvrait les casiers réfrigérés, dans mon cœur, il y avait deux voix, en fait, dans ma tête. C'était pourvu que ce soit son corps, et comme ça, on continue à faire ce qu'il faut faire, un enterrement, etc. Et une autre partie, c'était pourvu qu'il soit pas dedans et qu'il soit retrouvé dans d'autres circonstances, qu'il ne soit pas mort. Donc c'est comme ça que j'ai vu pendant plusieurs jours des corps. Et c'était à Douala, ça. Je retrouve ma mère méconnaissable. Je pense qu'elle n'avait pas dormi pendant 5 jours. Qu'elle était amaigrie. Et là, elle a commencé à me dire des trucs qui me faisaient peur. Je me demandais, est-ce que je suis pas en train de perdre ma mère dans le sens où elle va devenir folle? Elle disait qu'elle va retrouver Ange, qu'il a disparu, que les gens racontent des histoires, qu'il est tombé dans le fleuve, qu'ils arrêtent de mentir. Elle va retrouver le petit. On lui raconte des histoires. Je lui ai dit, bah, tu sais, je compte aller au village. Et elle voulait pas. Elle m'a dit, tu vas surtout pas là-bas, tu vas pas au village. Mais je suis allée au village, je suis allée au village toute seule. Donc j'arrive dans ce village Konsong en bus. C'est pas un village avec des immeubles, c'est vraiment beaucoup de petites maisons. Vous avez la forêt que vous pouvez voir à droite, et en marchant dans des chemins difficiles, vous pouvez arriver au niveau d'un fleuve. La première maison où je vais, c'est celle de mon oncle. Quand j'arrive sur place, je suis reçue par Adeline, ma tante. C'est elle qui m'explique qu'ils ne comprennent pas ce qui s'est passé. Le fait que mon frère soit venu uniquement en visite pour une journée, il devait repartir à Douala le soir même et qu'il ait disparu, en fait, ça l'embarrassait beaucoup. Alors, ma mère me dit que mon frère s'ennuyait et il est parti déposer des consignes. Quand on boit des jus de fruits frais en Afrique en bouteille pour recevoir de l'argent, on doit ramener les consignes chez le boutiquier, comme on appelle ça là-bas. Donc, ma mère a vu mon frère en partance pour le boutiquier. Boutiquier qui n'a jamais vu mon frère. Le boutiquier n'a jamais vu mon frère. Il a disparu à partir du moment où il a quitté cette maison. C'est comme si vous faisiez, je ne sais pas, 200 mètres. Comment on peut disparaître sur 200 mètres et que personne ne sache rien? Ensuite, ma tante, c'est elle qui m'amène vers plusieurs témoins. Mais chaque témoin, c'était de pire en pire dans l'absurdité des propos et l'absurdité des versions. Mon frère se serait suicidé devant tout un village. Pour moi, c'est inimaginable, incompréhensible. On ne peut pas quitter Paris pour aller se suicider jusque au Cameroun en emmenant sa mère avec soi. Et c'est de là que j'ai demandé à voir où était le lieu, s'il y avait des témoins. Et elle m'a emmenée chez différents témoins. Elle m'a emmenée dans la maison d'une dame qui a prétendu avoir vu mon frère le 15 septembre, donc un jour après qu'il ait disparu, que l'alerte ait été donnée. Mon frère serait réapparu, comme par magie, avec des vêtements complètement trempés, apeurés. Il était apeuré de quoi? Qu'est-ce qui lui faisait peur? Et on lui a dit, mais ce n'est pas toi le jeune qu'on recherche partout. Comment tu t'appelles? Tu ne viens pas de France? Et là, soi-disant, il regardait avec des yeux révulsés et il disait, non, je ne veux pas qu'on me retrouve. Et la dame a fait, non, ne pars pas, ne pars pas. Et il aurait couru, selon elle, en faisant des bonds. C'était pas une course normale, il faisait des bonds de 2 mètres. Pour moi, ça n'avait aucun sens. Et je lui ai dit, vous êtes vraiment sûre? Je lui ai montré les photos. Elle me dit, oui, c'est lui, il était mouillé, avec les yeux révulsés, on a eu très peur. Et ensuite, quelqu'un a donné l'alerte parce qu'il aurait été vu près du fleuve. J'ai demandé à ce qu'on m'amène exactement à l'endroit. Et là, elle me dit qu'il était de dos, que tout le village criait. Et elle me disait, on a essayé de lui donner la main, attrape la main, viens, ne te jette pas, petit, ne te jette pas. Et il s'est jeté. Non, mais sincèrement, ça fait rire. Faut arrêter de mentir comme ça. Je me suis demandé si les gens étaient payés pour me raconter des mensonges. La chose la plus plausible, c'est que mon frère aurait été agressé et dans l'agression, peut-être tué, peut-être aux homicides involontaires, j'en sais rien. Il avait un très joli portable pour l'époque. Son portable a sonné pendant au moins 3 jours. Ce qui fait qu'on s'est dit, est-ce que quelqu'un n'y a pas volé son portable? Il se serait débattu parce que même s'il était gentil, c'est pas quelqu'un qui aime se laisser faire. Donc si on essaie de lui voler quelque chose, il va essayer de se défendre. Et peut-être en essayant de se défendre, ça peut mal tourner, surtout si on tombe sur plusieurs personnes. On peut imaginer plein de choses, mais pas le suicide. Et on n'a jamais rien retrouvé, ni son portable, ni les vêtements qu'il portait, des vêtements de marque, ni la casquette qu'il pouvait avoir. Nous n'avons rien retrouvé de tout ce qu'il avait sur lui. Et quand j'y suis allée, ben, j'ai vu, j'insiste, j'ai vu une bande de menteurs dans ce village qui s'appelle Nkonsung. Les gens savent ce qui s'est passé. Il y a une omerta. Les gens ne disent pas la vérité. J'en suis sûre. Mais vu que c'est un village qui fait même pas 3000 habitants, il y a forcément plusieurs familles qui seraient impliquées et qui étoufferaient l'affaire. Ça, c'est quelque chose qui peut être une piste. C'est pour ça que j'ai porté plainte pour homicide et séquestration. Mon frère, il n'a pas été recherché activement. Il y a des choses qui ont été faites. Le fleuve a été fouillé. Il n'a jamais été trouvé. Et la France me dit que le dossier va être classé sans suite car Elle est prête à faire une commission rogatoire internationale, elle est prête à envoyer des enquêteurs au Cameroun, mais le Cameroun étant un pays souverain, elle ne peut pas l'envoyer sans l'autorisation du Cameroun. Or, le Cameroun n'aurait jamais donné d'autorisation. Mon trajet retour en France est flou, dans le sens où j'ai senti que je n'avais pas rempli pleinement ma mission. Elle était de revenir avec mon frère, mort ou vivant, mais revenir avec lui. On ne sait pas à chaque anniversaire de sa disparition, qu'est-ce qu'il faut faire, allumer une bougie, faire une prière. J'ai eu droit à toutes sortes de commentaires, j'ai eu droit à... Mais t'as encore de l'espoir, parce que franchement, ça me semble cuit là, hein, après tant d'années. On m'a tout sorti. Il avait pas envie de rentrer, il est parti visiter un autre pays, il a été enrôlé dans Boko Haram. Qu'est-ce qu'on ne m'a pas dit ? On m'a tout dit. C'est comme si je devais vivre en étant imputé de quelque chose. Donc quand on est amputé de quelque chose, on continue de vivre, mais on vit différemment, on vit moins bien, on fait moins bien certaines choses. Donc il y a des choses que je vis pas toujours bien dans les mois qui ont suivi la mort de mon frère. À chaque fois que je prenais l'avion, je fondais en larmes parce que l'avion me faisait penser au ciel. Donc est-ce que mon frère était au ciel ? L'avion me faisait penser à ce voyage pour aller au Cameroun. Donc j'avais des angoisses inexplicable quand je prenais l'avion. Et puis le traumatisme n'est pas que pour moi, même mes frères et sœurs aujourd'hui, les trois derniers, n'ont jamais mis les pieds sur le continent africain, quoi. J'ai un de mes frères qui m'a dit « Mais aller en Afrique, pourquoi ? Pour mourir ?»